Ésaïe, chapitre 2, versets 6 à 22, page 446. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie, comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et tous les chênes du Bassan, contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux longs courts et tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se relèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or, qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur ?
Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, donc à la page 446. Et je vais prier. Prions. Merci Seigneur pour cette parole. Merci de ce que ta parole est esprit et vie. Et nous voulons te demander de nous parler ce matin par ton esprit, par ta parole. Applique cette parole à nos cœurs pour que nous puissions t'aimer davantage, te suivre plus fidèlement et grandir dans l'humilité. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, au cœur de ce passage de ce matin est la question de la confiance. À qui ou en quoi allons-nous placer notre confiance ? C'est une question fondamentale, n'est-ce pas ? Une question à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Force est de constater que toute la vie humaine, est basée sur cette notion de confiance. Vous avez confiance en vos chaises sur lesquelles vous êtes assis ce matin. Vous espérez que ces chaises ne vous lâchent pas. Vous avez confiance en votre banque qui garde vos économies. Et aussi en l'État français qui garantit ses banques ou ses dépôts. Vous avez confiance peut-être en vos parents, en vos amis, en votre conjoint. On bâtit l'avenir en fonction de notre confiance et la vie est ainsi faite, n'est-ce pas ? L'application de ce passage se trouve au verset 22. Dieu nous donne un avertissement solennel d'une clarté perçante. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur ? Vous voyez où Dieu veut en venir ? Alors Dieu parle de notre confiance ultime. C'est de cela que Dieu veut nous parler ce matin. Et ce thème est d'une pertinence radicale pour chacun de nous. La semaine dernière, dans le passage précédent, Ésaïe nous a donné un aperçu haletant de ce que Dieu va faire avec sa ville, Jérusalem. Il voulait faire de cette ville, cette cité infidèle, une cité fidèle qui marche à sa lumière. Et nous avons vu qu'en Jésus-Christ, en la Jérusalem céleste, au centre de laquelle se trouve Jésus-Christ, Dieu est en train de réaliser ses promesses, de se créer une cité fidèle, de bénir toute l'humanité. En Jésus, sa ville, non pas la ville géographique en Israël aujourd'hui, entre l'État palestinien et l'État d'Israël, mais la réalité céleste, en Jésus, en cette ville, Dieu a un grand destin. En fait, il a un grand destin pour Jésus et pour cette ville plutôt. Elle sera la plus haute montagne, celle à laquelle toutes les nations afflueront pour entendre la voix de Dieu, sa loi, la loi de Jésus-Christ, la parole faite chair. Alors dans nos passages de ce matin, Dieu, par son prophète Ésaïe, nous montre comme avec une loupe ce que cela veut dire pour sa ville, Jérusalem, d'il y a 2700 ans, d'être cette cité infidèle. On voit, elle est une ville, un but d'elle-même. Dieu nous montre la folie de ses voies, les conséquences de ses voies, et aussi ce qu'il va faire pour remédier à cette situation tristissime. Alors ce passage explique le problème de sa ville et de toute l'humanité, en des termes on ne peut plus clair. Premièrement, c'est une situation intolérable. Ensuite, nous allons voir dans un deuxième temps comment Dieu, ou qu'est-ce que Dieu va faire pour y remédier, sa réponse. Et ensuite, on va se poser la question, comment est-ce qu'on va y répondre? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va vivre cette application du verset 22? On va commencer avec cette situation intolérable. Notre passage au verset 6 commence avec un constat gravissime, voire terrifiant. Dieu a abandonné son peuple. Alors cela ne veut pas dire que Dieu est infidèle ou qu'il a abandonné son plan de bénir les nations au travers de ce peuple. Non, Dieu ne change pas ses plans, mais cela nous montre la gravité de la situation. Ce qu'Ésaïe va décrire est une situation intolérable. Dieu ne peut plus la tolérer. Alors que font-ils? On voit qu'ils sont remplis de l'Orient, c'est-à-dire des pratiques religieuses, sans doute de Babylonie ou de l'Assyrie, des superpuissances à l'Est, à l'époque. Et remplis des pratiques de l'Occident aussi, celles des Philistins, le peuple de l'Alliance, les Israélites, nous dit leur Dieu, ne cesse de regarder à ses voisins. Il singe ses voisins. Il adopte leur Dieu, leurs pratiques, leurs appuis. Cette référence à la fin du verset 6, qui nous parle de tendre leurs mains, évoque peut-être des alliances militaires. On peut lire tout le contexte du ministère d'Ésaïe dans les livres de Deux Rois et de Deux Chroniques. Et on voit ce genre d'influence et d'alliance militaire. Il y avait même un roi israélite qui a sacrifié ses propres enfants aux faux dieux. C'était une tragédie parce qu'Israël était censé montrer aux nations la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Alors c'était également une période de prospérité. Dieu, par la bouche d'Ésaïe, nous parle de ses trésors sans fin, son argent, son or. C'était un peuple qui avait connu les Trente Glorieuses, une période de plein emploi, d'excédents budgétaires et aussi de prospérité personnelle. Ils pensaient avoir vaincu les cycles économiques en forme de montagne russe. Ils pensaient que la croissance économique était éternelle. Ils étaient sans doute fiers de leur progrès économique, mais pas fiers de celui à qui toutes les richesses de la planète appartiennent. Le Dieu non pas de l'État-providence, mais de la providence divine. C'était un peuple qui n'avait pas taillé dans le budget de la défense, on le voit au verset 7, mais qui a dépensé ses richesses sur l'armement dernier cri n'y avait pas d'hélicoptères Apache ou des blindés ou des missiles anti-aériennes à l'époque, mais il y avait des chevaux, des chars, des tours, des murailles. Et ce pays était fier de sa capacité militaire. Il plaçait sa confiance en sa capacité à faire face à ses ennemis. Il aurait aimé une politique d'indépendance militaire totale, mais il avait oublié qu'il avait déjà en l'Éternel. C'est Dieu qui était leur rempart. Et le verset 8 part de ce qui est peut-être le comble. Le pays était rempli d'idoles, de faux dieux, des dieux des voisins. Verset 8, ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ils ne se prosternaient pas devant celui qui les avait créés. Ils se prosternaient devant des choses qu'ils avaient eux-mêmes créées. Ils avaient fabriqué leur propre Dieu à la place du vrai. Au lieu d'adorer celui qui était bien au-dessus d'eux, celui qui est infiniment supérieur, ils adoraient des choses qui dépendaient d'eux. Vous voyez comment, de manière tragique, la cité fidèle, Jérusalem, celle qui a connu l'Éternel, qui a connu ses promesses, son alliance, sa loi, est tombée bien bas. Jérusalem s'est éloignée de Dieu pour ressembler aux nations. Au verset 9, nous voyons les conséquences de leurs actes. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne la pardonneras pas. Alors c'est un verset qui est un peu difficile à traduire, donc en fonction des versions que vous avez entre vos mains, vous avez peut-être des traductions un peu différentes. Mais en gros, ce verset évoque deux choses. L'abaissement de l'homme et la colère de Dieu. Dieu nous dit ici que cette litanie de choses dont il accuse Israël ne fait que le conduire à son abaissement, son humiliation et ultimement à sa colère. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de l'accusation de Dieu? Au centre de toutes ces actions se trouve l'orgueil de l'homme. Est-ce que vous voyez ça au verset 11, 12 et 17? C'est ça la situation intolérable. Dieu ne supporte pas l'orgueil de l'homme. La glorification de l'homme par l'homme est un affront gigantesque au Créateur. Lorsque l'homme refuse d'honorer son Créateur comme son Créateur, qu'est-ce qui se passe? Il s'érige lui-même orgueilleusement à la place de son Créateur. Inéluctablement, il se tourne vers lui-même. Après tout, il n'y a que lui qui reste. Il devient un but de lui-même. Il fait confiance à lui-même, à ses propres paroles, à son propre jugement. Et il finit par s'adorer lui-même. La confiance et l'adoration vont de pair. Elles sont inséparables. Nous adorons ce en quoi nous plaçons notre confiance. On n'y peut rien, c'est comme ça. L'orgueil de l'homme et l'idolâtrie de l'homme sont inextricablement liés. L'homme qui se satisfait de lui-même, qui ne cherche pas appui final, ultime, total en Dieu, fait confiance à ce qu'il fait lui-même, à sa propre personne. Il est lui-même le centre de son univers, son appui dans la vie comme dans la mort. Il fait confiance à ses trésors. Il fait confiance à sa puissance, sa propre capacité de se protéger. Il fait confiance en sa capacité de contrôler l'avenir. Dans ce passage, ce contrôle, cette soi-disant maîtrise de l'avenir, se voit là où on voit les pratiques religieuses de l'Est et de l'Ouest. C'est la divination, c'est le fait d'essayer de contrôler les dieux, de contrôler les aliments. L'homme fait confiance aux idoles qu'il a lui-même fabriquées, que ses doigts ont fait. Il fait confiance à lui-même. Il est orgueilleux, il est fier de lui-même, il se suffit à lui-même. C'est le comble pour cette nation qui était censée montrer au monde ce que cela veut dire de dépendre humblement du Dieu vivant et vrai, de lui faire confiance, de vivre selon ses voies plutôt que d'en inventer d'autres, d'inspiration humaine. Israël était tombé bien bas. Israël s'était abaissé au point d'adorer ce qu'il avait lui-même créé. Ils s'étaient livrés à la folie de l'orgueil. Vous voyez comment cette glorification humaine, autoglorification, conduit ultimement à cette folie dégradante où on adore ce que nous avons nous-mêmes créé. Voilà, on commence à cerner peut-être toute la pertinence de ce passage pour nous, pour notre société et aussi pour l'Église. Peut-être pour l'Église en particulier. Israël est-il censé être une nation de foi, de fidélité, dans un monde incrédule et infidèle? L'Église en Jésus, l'Israélite fidèle par excellence, l'Église est censée être cette cité fidèle sur une colline, une cité de foi, de humble foi et de fidélité. Et ça dans un monde imbu de lui-même. Nous vivons une société occidentale qui s'est émancipée pour la plupart de toute référence à Dieu. Elle est ouvertement humaniste, centrée sur l'homme. Elle déclare se suffire à elle-même. Elle est le juge de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Ses valeurs universelles prétendent être celles de l'éternité. Son argent est roi et le garant de son avenir. L'éducation et la connaissance sont les piliers, ses piliers, les socles de son avenir. Ses alliances, sa technologie militaire doivent être son rempart, sa défense. Ses loisirs en abondance lui fournissent le divertissement qu'il lui faut pour oublier l'absurdité de la vie. Oui, l'homme sans Dieu, l'homme qui se fie à lui-même, qui se suffit à lui-même, mène une existence qui se révèle tôt ou tard absurde et vide, creuse de signification. Oui, il se glorifie, il se dit qu'il est le plus fort, celui qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Mais tôt ou tard, il se rend compte qu'il ne peut pas expliquer le sens de la vie, de sa vie. Il se découvre mortel, il l'a pour un temps et ensuite il meurt. Finalement, sans Dieu et la gloire que Dieu donne à l'homme, l'homme n'est pas meilleur que les animaux des champs. Dans son orgueil, l'homme détrône Dieu pour se donner lui-même le trône, mais en le faisant, l'homme devient le sujet d'une blague cosmique, absurde et cruelle. Il est là en quête de gloire et de sens. Mais sans le Dieu qu'il a créé pour le connaître, pour le glorifier, pour l'adorer, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de destin glorieux non plus. Et en cela, l'homme se trouve profondément abaissé. Et nous voyons cela autour de nous, dans cette société, dans la misère spirituelle de nos contemporains, dans le manque d'espoir, dans la dépression ambiante, envahissante. L'homme cherche sa gloire, il se glorifie. Mais cette quête se révèle toujours vaine et illusoire. Alors on peut prendre cette même loupe, celle d'Ésaïe, et la mettre sur nos propres cœurs. Parce que l'orgueil n'est jamais très loin de nous non plus. Notre orgueil nous conduit à chercher en nous-mêmes notre sécurité, notre confort, notre satisfaction, notre approbation, et ça plutôt qu'en Dieu. On le fait de différentes manières. On s'en compte lorsqu'on voit que, par exemple, notre vie de prière est plutôt minime, on ne fait pas confiance à Dieu, on ne ressent pas le besoin de lui confier nos soucis. On dépend finalement de nous-mêmes. Ou lorsque la confession de nos péchés est une chose du passé, notre péché ne nous attriste plus. Lorsque nous ne supportons pas la critique, on doit être plus grand aux yeux des autres. Lorsque nous laissons libre cours à nos langues pour abaisser les autres, notre identité est construite non pas sur ce que Dieu nous a donné en Jésus, mais de manière fragile, elle est construite en nous comparant favorablement, défavorablement aux autres. On le voit aussi lorsque la libéralité ou la générosité avec nos biens nous fait défaut. On se rend compte que finalement, on dépend de ses biens, on s'agrippe à ses biens, on trouve notre salut en ces choses. Bon, les pasteurs ne sont pas indemnes, ils ne sont pas une classe à part. On vit trop souvent pour l'approbation d'autrui. On se compare les uns aux autres. On parle de la taille de nos églises respectives. On peut également de manière pieuse, fait confiance à l'homme. C'est l'orgueil qui nous conduit à faire confiance à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Alors, la réponse de Dieu. La réponse de Dieu est claire. Le verset 10 nous dit que Dieu vient. Entre dans les grottes. Cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. C'est la vue de Dieu lui-même, dans toute sa grandeur, toute sa splendeur, toute sa gloire, sa sainteté. C'est ça ce qui est insupportable pour l'orgueil de l'homme. Son orgueil ne peut supporter la présence de ce qui est infiniment supérieur à lui-même. Avec pour conséquence, verset 11, l'être humain sera abaissé, avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et dans la suite de ce passage, Ésaïe nous parle souvent de ce jour à venir. Dieu a un jour. Le verset 12 nous dit « Il s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés. » Dieu promet de venir pour juger l'orgueil des hommes. Et en jugeant l'orgueil des hommes, Dieu se glorifie. Il se glorifie lui-même. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Alors est-ce que Dieu fait ce que l'homme a fait? Est-ce que Dieu est hypocrite? Non, loin de là. Parce qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a pas plus grand, plus bon, plus beau, plus juste que l'Éternel. Et ce qui est le plus grand, le plus beau, le plus bon, le plus juste est digne de toute notre adoration. Et en fait, notre salut en dépend. Si autre chose que lui est adoré, si quelqu'un d'autre soit la gloire, ben c'est le chaos qui s'ensuit. Nous voulons de faire ce constat. On le voit dans nos vies, on le voit dans la société. Notre espérance chrétienne est ce jour de gloire, quand Dieu sera le seul qui sera élevé, comme il le faut. La gloire de Dieu, c'est le seul remède au mal orgueilleux de l'homme. Alors, de quel jour parle-t-il? Alors, comme j'ai expliqué la semaine dernière, dans la prophétie, il peut y avoir plusieurs crêtes, plusieurs accomplissements différents. Et on voit, par exemple, de loin, on voit peut-être une seule crête, mais il y en a plusieurs avec des vallées entre les crêtes. Il y a des accomplissements distincts. Israël va connaître des jours d'abaissement. Jérusalem sera assiégée par les Assyriens. Plus tard, elle sera conquise et détruite par les Babyloniens. Et même plus loin encore, plus tard, par les Romains. Mais très clairement, ce jour évoque aussi le dernier jour, le jugement final, dernier, quand Dieu mettra les pendules à l'heure pour tous. Jésus lui-même en parle abondamment. Vous savez comme moi que nous vivons une société qui ne pense pas à ce jour-là. Et qui vit comme si ce jour ne va jamais venir. Elle n'y croit pas. Et ça, je pense que c'est une tentation pour nous, chrétiens. C'est une tentation pour l'Église aussi. On n'y pense pas non plus. On oublie la réalité de ce jour à venir. Et du coup, l'Évangile, notre Évangile, perd toute sa pertinence. Pire, nous commençons à vivre nous-mêmes sans la crainte de Dieu. Mais Dieu a donné des preuves de ce jugement à venir. Des preuves tangibles et historiques. Il suffit de lire les récits qui décrivent ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais d'une manière encore plus pertinente encore, il suffit de regarder à la croix de Jésus-Christ, elle aussi plantée dans le sol dur de Jérusalem. Ce jour-là était le jour de jugement avant l'heure. Le jugement n'est pas tombé sur un homme orgueilleux, mais sur un homme d'une humilité extraordinaire. L'Épître aux Philippiens nous dit que Jésus, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur ou d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. La colère de Dieu à l'égard de l'homme hautain est tombée sur Jésus, son fils, parce que Jésus s'est chargé de nos fautes. C'est lui qui a subi la peine que notre orgueil mérite. Jésus a parlé de ce moment comme son heure de gloire. On le voit dans l'évangile de Jean. Dieu seul est glorifié lorsque l'orgueil de l'homme est abaissé, puni et détruit. Jésus a été élevé sur la croix. Cette croix qui nous montre la folie de notre orgueil parce qu'il va jusqu'à vouloir essayer de tuer Dieu, nous débarrasser une fois pour toutes de notre Créateur. Mais cette croix qui nous montre également la grandeur de la grâce de Dieu, sa bonté extraordinaire. Au moment où l'homme se donne à sa folie, à son orgueil, Dieu se glorifie. La grandeur de sa grâce est exaltée. Alors, quelle est la seule réponse qui vaille? C'est notre verset 22 qui nous le dit. Cessez de faire confiance à l'homme. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Cessons de faire confiance à nous-mêmes et faisons confiance à Dieu, faisons confiance à son Fils, Jésus-Christ. Notre orgueil va nous conduire à mettre notre confiance en notre argent, notre éducation, peut-être notre apparence, notre famille, nos enfants, notre église, même notre église, ou la justesse de notre théologie, notre capacité à nous en sortir nous-mêmes, notre réputation, notre pays, notre état-providence. Mais Dieu nous invite ce matin, comme il invitait le peuple de l'Alliance à l'époque d'Ésaïe, à cesser de faire confiance à ces choses et à lui faire confiance, à faire de lui notre seule et unique valeur sûre dans la vie comme dans la mort. Alors comment faire ça? Quelles sont les pistes d'application? Peut-être une première piste, on a besoin de voir Dieu, on a besoin de voir la grandeur et la splendeur de Dieu. Et Dieu se révèle. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. On voit ça dans la Bible, on a besoin d'être dans la parole. On a besoin de venir chaque semaine pour être dans la parole le dimanche matin, mais aussi peut-être en semaine et jeudi soir dans les ateliers bibliques ou dans votre lecture personnelle de la Bible. On a besoin de voir la grandeur de l'Éternel. C'est en voyant qui est Dieu que notre orgueil s'abaisse. Deuxième piste, c'est la croix qui nous apprend l'humilité. Ça, c'est un peu le message de Philippiens 2, donc on vient de lire cette citation-là. On le voit aussi dans nos chants, il y a un chant que j'aime bien. « Quand je contemple cette croix, où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devint ma vie. » Au pied de la croix, si on revient au pied de la croix, la fierté, l'orgueil de l'homme est écrasé. Au moment de notre hostilité la plus extrême, Dieu nous a aimés avec un amour ardent. Il nous a montré la grâce la plus abondante. C'est Dieu dans sa grâce qui sauve les hommes orgueilleux. Au pied de la croix, on fait les constats suivants. Je suis coupable de cet acte. Je suis coupable de cet orgueil. Voilà ce que mon orgueil fait et voilà ce que mon orgueil mérite. Mais j'ai le salut en Jésus-Christ. Je ne contribue à rien à ce salut, à ce pardon, car Jésus a tout fait pour me le gagner. Je ne fais que dépendre de lui, de ce qu'il a fait. Je reçois les mains vides ce qu'il a fait par la foi, comme le cadeau qu'il est. Je ne peux rien y apporter. Si je suis à Dieu, c'est la grâce seule. L'orgueil est exclu. Il n'y a pas lieu de se vanter, n'est-ce pas? Le catéchisme de Heidelberg, donc un des grands catéchismes de la réforme protestante, l'explique en posant la question suivante. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Avec la réponse suivante. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Je continue donc après cette citation. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. C'est ainsi, c'est par la croix que Dieu enlève nos idoles et c'est comme ça qu'il écrase notre orgueil, notre suffisance en nous-mêmes. L'humilité, la foi humble jaillira de la reconnaissance pour Jésus, pour la croix. C'est en méditant ces choses, en participant par exemple à la scène, ce que nous avons fait tout à l'heure, en demandant à Dieu de nous pardonner, de nous rendre reconnaissants pour Jésus, que Dieu enlève nos idoles et écrase notre orgueil. Est-ce que je peux faire la pub pour un livre? Alors, certains ont déjà fait la commande de ce livre, L'humilité de Charles-Joseph Mahony. Donc si vous avez fait la commande, donc, j'ai les exemplaires. Mais si vous n'avez pas fait la commande, donc, vous pouvez quand même refaire une commande. C'est un livre vraiment exceptionnel qui peut vous faire du bien, qui m'a fait du bien lorsque je l'ai lu, sur toute cette problématique de l'orgueil et l'humilité. Mais si nous ne venons pas à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que la terreur de son jugement, ce jugement du dernier jour qui nous attend. Et ce passage est plein d'images très vives. Verset 18 par exemple, « Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers. Et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel. » Et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, toutes nos idoles seront révélées pour la vanité qu'elles sont. Et notre orgueil, notre autosuffisance sera complètement, une fois pour toutes, exposée pour sa folie. En guise de conclusion, dans le Nouveau Testament, Jésus raconte l'histoire de deux hommes. Un homme qui est très fier, un homme humble. Je vais vous lire ce passage, donc c'est dans Luc 18. Il dit encore cette parabole, Jésus dit encore cette parabole, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. En lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même quand ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste ou justifié, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Je vous invite à la prière, prions. Notre bon Père Céleste, merci de ce que nous pouvons nous réunir devant toi ce matin, dans la confiance aussi, parce que tu nous as donné ton Fils qui a pris notre place, qui a payé pour notre orgueil. Et c'est au pied de la croix que nous voyons notre folie, tu exposes notre folie. Merci notre Père pour tout ce que tu as fait. Aide-nous à vivre cette semaine à la lumière de la croix, à la lumière de ce que tu as accompli là. Aide-nous à saisir le fait que tout est par grâce. Nous n'avons rien contribué à ce salut. Si nous sommes à toi, c'est C'est toi seul, c'est toi qui nous as donné cette foi, c'est toi qui nous as conduit à Jésus. C'est Jésus qui a tout pris à notre place. Aide-nous à vivre dans l'humilité de la foi, dans l'humilité de l'obéissance. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous à nous humilier devant toi et à vivre pour toi dans la confiance. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.